explique qu'est-ce que la contingence avec Fethi Benslama et Patrick Dupouet. C'est une drôle de captatio benevolentiae, je le confesse, que d'entamer la nouvelle saison de répliques avec une question qui semble empruntée à l'oral de l'agrégation de philosophie. Qu'est-ce que la contingence ? Voilà précisément le genre de colle abstraite et abrupte qui m'ont fait étudiant fuir la philosophie et choisir les lettres modernes. En vieillissant, j'ai pris sur moi, je suis devenu moins peureux, moins timide. Mais si j'ai choisi cette formulation sévère, c'est pour des raisons très concrètes et qui nous concernent tous, quelle que soit notre profession, notre spécialité ou notre familiarité avec l'approche philosophique des choses. En février 2020, une pandémie dont nous portons encore le masque s'est abattue sur l'humanité tout entière. À peine le virus entrait-il en action que retentissait la très légitime question « Pourquoi ?» De quelle cause cette catastrophe était-elle l'effet ? Et comme, pour reprendre l'expression de Hans Jonas, la cité des hommes, jadis une enclave à l'intérieur de la nature non humaine, s'étend maintenant sur la totalité de la surface terrestre, cette cause, on est allé la chercher à l'intérieur de cette cité. Il n'y a plus de catastrophe naturelle, pense-t-on aujourd'hui, le principe de raison s'exerce donc dans la modalité de l'imputation. Et sur le banc des accusés, il y a l'homme en général, et plus spécifiquement l'insatiable homme moderne, et plus spécifiquement encore les hommes politiques qui n'ont rien fait comme il faut. Une voix cependant s'est fait entendre, qui rompait avec cet usage du principe de raison, celle de Jean-Pierre Dubuis, connu notamment pour ses travaux sur la philosophie des catastrophes. Je le cite. Le problème est que si nous sommes la seule cause des malheurs qui nous frappent, alors notre responsabilité devient démesurée. Némésis punissait déjà l'orgueil que nous manifestons d'avoir créé un monde qui nous est propre. Quel sort réservera-t-elle à l'ambition que nous avons de vouloir le sauver ? Un monde humain complètement fermé sur lui-même, que lui manque-t-il ? Certes pas Dieu, car c'est contre lui que cette clôture s'est faite, il lui manque ce que les philosophes appellent la contingence. Et voilà pourquoi j'ai invité ce matin le professeur de philosophie Patrick Dupouet et le psychanalyste Fethi Benslama. Cette question, en effet, me brûle les lèvres. Qu'est-ce que la contingence et en quoi, éventuellement, nous manque-t-elle ? Patrick Dupouet.
Bonjour et merci pour votre invitation qui me concerne, je présume, comme, en effet, vous venez de le dire, professeur de philosophie, elle aurait pu me concerner comme homme et comme citoyen, elle aurait pu me concerner comme amateur, par exemple, de haute montagne et pratiquant l'alpinisme, qui m'a permis de rencontrer de multiples fois ce que nous appelons alors le hasard, le sort, l'aléatoire, la chance, la malchance, l'imprévisible, l'immaîtrisable. Toutes notions dans lesquelles la philosophie a essayé de, en effet, jeter quelques lumières en se donnant un arsenal conceptuel dont l'un des instruments les plus efficaces est notamment la notion de contingence, qui présente l'avantage sur les précédentes de recevoir une définition à la fois précise et univoque. La contingence se définit par opposition à la nécessité, non pas la nécessité au sens de ce qui est indispensable, comme l'air que nous respirons, mais au sens de ce qui ne peut pas ne pas être. La contingence, le contingent se définit comme le caractère de ce qui peut ne pas être, qui aurait pu ne pas être.
Ou qui aurait pu être autrement.
Ou qui aurait pu être autrement, bien sûr. Et à partir de là, les notions de nécessité et de contingence se déclinent à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la nécessité rationnelle. Il est nécessaire pour un triangle que le plus grand côté soit opposé à au plus grand angle. C'est une nécessité inhérente à son essence. Il est contingent pour ce triangle d'être rectangle ou isocèle. relativement à son essence. Bien, cette nécessité rationnelle ne nous concerne pas ici directement. On peut s'interroger sur ce fondement, c'est une question métaphysique, mais qui n'est sans doute pas ici centrale. On rencontre une nécessité physique qui s'exprime dans les lois naturelles. Il est nécessaire que la trajectoire des planètes obéisse aux lois de Kepler, mais il est contingent, probablement, qu'il y ait dans le système solaire 8, 9 ou 10 planètes. Cette nécessité physique, naturelle, est elle aussi très contraignante, un peu moins déjà que la nécessité logique, rationnelle ou mathématique. Elle l'est néanmoins parce qu'on ne fait pas, on ne joue pas avec les lois de la nature, on ne les défie pas, on fait avec. Cela dit, depuis quelques découvertes de la physique au XXe siècle, on s'est un peu demandé si quand même il n'y avait pas un peu de contingence dans la nature, au niveau par exemple des particules élémentaires. C'est aussi un problème à la fois scientifique, épistémologique, métaphysique, etc. Les choses se compliquent singulièrement quand on arrive au niveau des choses humaines, des réalités humaines. Alors là, nécessité et contingence vont générer des problèmes qui se déclinent à deux niveaux, à nouveau. Le niveau individuel. À quel niveau de nécessité, à quel degré de nécessité sont soumises les actions humaines au niveau individuel, par exemple. Ben, c'est la question, tout simplement, du libre-arbitre, la très vieille question métaphysique du libre-arbitre. Certains pensent que les actions humaines sont libres et échappent à les nécessités causales. C'est le cas, par exemple, d'un Descartes, d'un Kant, d'un Rousseau, d'un Sartre, etc. D'autres le nient, un Spinoza, un Diderot, aujourd'hui, par exemple, alors un Nietzsche, un Freud aussi, avec le principe du déterminisme psychique, et aussi, aujourd'hui, un André Comte-Smonville, par exemple. Cette question métaphysique du libre-arbitre pourrait paraître ici aussi assez éloignée de la nôtre, je pense qu'elle ne l'est pas, et elle est en relation très directe, j'ai d'ailleurs une thèse sur cette question, mais on y reviendra plus loin, elle est en relation directe avec le problème de la contingence à l'échelle, cette fois-ci non plus d'un individu, mais des collectivités humaines, des sociétés et de l'histoire, dans laquelle il y a bien sûr de la contingence, ça c'est une évidence, mais il doit bien y avoir une nécessité aussi, sans quoi, et ça Kant l'avait déjà dit, Kant le savait déjà à une époque où on ne parlait pas de sciences humaines, mais sans quoi les sciences humaines n'auraient ni pertinence ni signification, or elles ont une pertinence et une signification. Et donc, il y a de la contingence, puisque personne n'oserait dire que de toute éternité, par exemple, les attentats du 11 septembre devaient se produire, ou que, pour remonter plus haut, César devait nécessairement renverser la République. Et donc, pour conclure, le problème se pose dans les termes suivants. Si l'on admet qu'aucune réalité naturelle ou humaine n'existe sans qu'elle ait ses causes, ce qui est effectivement ce que vous avez appelé le principe de raison. C'est l'appellation qu'on doit en particulier à Leibniz. Si l'on admet qu'il n'y a pas de miracle, comment cette nécessité causale peut-elle et doit-elle être articulée avec la réalité irrécusable, irréfutable, parce qu'elle fait partie, encore une fois, de l'expérience de chacun, de ce que nous appelons l'imprévisible, l'aléatoire, le hasard, etc.
Bon, très bien, j'aurais une question à vous poser, mais je voudrais d'abord laisser Fethi Benslama réagir.
Oui, bonjour, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, Patrick Dupouet. Vous avez en effet fait un raisonnement philosophique, abstrait, je dirais. Même si vous avez dit en même temps que la question de la contingence et de la nécessité se décline dans divers champs, évidemment la philosophie, mais vous avez abordé la politique, la science, elle se décline d'une autre manière. Et il y a en effet des débats énormes dans la science sur la question de la contingence, de la nécessité. Et puis vous avez parlé des affaires humaines. Et c'est sur ce plan que moi je me situe. Pour la psychanalyse, vous avez dit que Freud était déterministe. C'est pas tout à fait exact. Il y a en effet une part de la pensée, de la théorie de Freud, une part qui est déterministe, dans le fait que il a pensé. Et nous, c'est une dimension que nous reconnaissons. Freud pense que tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive est inscrit et ne s'efface pas. Mais en même temps, ça sur le plan de la théorie de l'inconscient, mais en même temps, lorsqu'il s'agit de la psychanalyse comme thérapeutique, on ne peut pas garder la nécessité et donc le déterminisme. parce que sinon, il n'y aurait plus rien à faire. Et donc, il y a une autre part de la psychanalyse qui est, elle, du côté de la contingence, c'est-à-dire de l'imprévisible, de ce qui peut arriver et permettre la créativité, de sorte que, même pour quelqu'un qui va reconnaître les traces de ce qui a fait que sa vie est ce qu'elle est aujourd'hui, il va être amené par du côté de la contingence à la penser autrement. Je cite l'exemple d'une patiente qui un jour, après quelques mois de travail, s'est exclamée « Mais le passé est imprévisible !» Pourquoi ? Parce que elle a été amenée à relire et à remanier son histoire de telle sorte qu'elle est apparue tout à fait nouvelle. Et donc, c'est ces deux côtés du nécessaire et du contingent vont ensemble en psychanalyse, ils sont tenus. Et ce qui pose d'ailleurs un problème tout à fait, qui est à mon sens le problème central, c'est la question de l'interprétation. Où commence le nécessaire? Où est-ce qu'il s'arrête? Où commence la contingence? Où est-ce qu'elle s'arrête?
Oui, mais alors justement, la question se pose, comment articuler, en effet, le nécessaire et le contingent. Il y a une tendance dans la pensée contemporaine, aussi bien la philosophie sophistiquée que la philosophie commune, à voir de la nécessité partout. Je reviens une seconde à la pandémie. Jean-Pierre Dubuis remarque, dans ce même entretien au Monde, que beaucoup de ses collègues ont été trop heureux de prétendre que les événements confirmaient ce qu'ils avaient toujours pensé. C'est-à-dire, l'effondrement, c'était les collapsologues qui le disaient, ça avait lieu ça aurait dû avoir lieu 10 ans plus tard, mais ça avait lieu maintenant. Et il dit ceci, dans l'ensemble, le monde intellectuel français s'est montré inapte à se laisser bousculer par l'événement. Et l'événement, c'est l'imprévisible. Or, Hegel nous dit, la philosophie, c'est l'élimination de l'accidentel, donc de la contingence. La philosophie s'est emparée de l'histoire. La raison s'est introduite dans l'histoire. Donc, avant la modernité, justement, la philosophie se méfiait un peu de l'histoire parce que c'est un lieu hasardeux et chaotique. Là, non. Et alors, vous parlez de la psychanalyse. Je suis très intéressé par ce que vous dites, Fethi Ben Slama. Parce que dans la pensée courante, on a l'impression que la psychanalyse vous dit que rien n'arrive par hasard, mais toujours comme par hasard. C'est-à-dire, vous dites un truc, ah, c'est un acte manqué. Ah, c'est un lapsus. Donc, tout fait sens. L'interprétation est omnivore. Et alors, à ce moment-là, on se dit, oui, mais où est la contingence dans ce qui m'arrive? Est-ce que la psychanalyse n'a pas pour charge, la pensée psychanalytique, justement, de transformer la contingence en nécessité? Voilà les deux questions que je me pose après vous avoir entendu l'un et l'autre. Mais Patrick Dupouet.
Pour répondre à Fethi Ben Slama, vous avez raison de dire que Freud n'est pas tout à fait déterministe, je vous cite. Mais quand vous dites que dans la thérapeutique, on ne peut pas garder la nécessité, je vous cite encore, parce que si on gardait la nécessité, on ne pourrait plus rien faire. Là, je dis non pour cette raison suivante. C'est que c'est pareil pour la physique et pour la technique. On garde toute la nécessité que nous enseignent les sciences physiques. Quand on l'utilise, sous la fameuse formule de Bacon, on commande à la nature qu'en lui obéissant, on garde toute la nécessité, quand on se sert de cette nécessité, de la connaissance qu'on a de la causalité, pour faire, justement. Et dire que si on garde la nécessité, on ne peut plus rien faire, c'est peut-être confondre nécessité et fatalité. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déterminisme au sens trop souvent reçu du mot déterminisme, au sens d'une fatalité. Chez Freud, ça c'est bien évident. Et il n'y a pas de psychanalyse sans reconnaissance de cette part de contingence. Mais c'est une part de contingence dont Démocrite savait déjà qu'elle est parfaitement compatible avec la plus rigoureuse, la plus absolue, la plus implacable nécessité. Alors après, la psychanalyse, en effet, adopte le principe de causalité avec lequel, je pense, elle ne fait jamais de transaction, de compromis, même dans la thérapeutique. Mais alors, ce qui est, à mon avis, l'intérêt principal de la psychanalyse, c'est que elle cherche des causes et elle détermine ce qu'on appelle le sens à partir de ces causes. C'est ce qui fait de l'interprétation psychanalytique quelque chose de tout à fait différent de l'interprétation religieuse, qui donne un sens à tous les événements à partir d'une intention, qui serait une intention transcendante, une volonté, une intelligence suprême, tandis que la psychanalyse renvoie l'interprétation, toute l'herméneutique, à un système de causalité qu'on va dire mécanique, qu'on va dire de nécessité physique, enfin au sens de naturel. Alors après, notre réaction, la réaction de nos contemporains vis-à-vis de cette pandémie, on voit la nécessité partout. Oui et non, car je pense qu'on voit aussi beaucoup de contingences au sens de libre arbitre, au sens de la liberté de la volonté, parce que le refus de cette contingence que vous constatez, que vous déplorez, que je déplore aussi, le refus de cette contingence nous conduit à diriger notre animosité, je dirais même notre haine contre certains. Or, il n'y a qu'un individu doué de liberté au sens du libre arbitre qu'on puisse haïr. C'est pour ça qu'on voit de la nécessité partout, d'une certaine façon, mais on voit aussi de la liberté partout. C'est-à-dire qu'on voit aussi de la responsabilité fondée sur une imputation de libre arbitre. Et je crois que ces deux aspects sont profondément liés, articulés.
Oui. Fethi Benstama.
Oui, je crois que ce qui peut être dit de la psychanalyse est souvent d'ailleurs obéi à un schématisme où on reste dans les choses théoriques. Parce qu'il faut aller dans l'expérience. Et dans l'expérience, il y a, je dirais, un jeu entre le contingent et le nécessaire. Tout un jeu. Et même dans la réalité de notre vie, si je prends l'exemple qui est, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai vécu avec un de mes étudiants qui un jour, dans la rue, il reçoit une tuile sur la tête. Il est, le pauvre, devenu paralysé. Si on prend un événement comme celui-là, évidemment, il y a une part, une séquence qu'on peut dire contingente, un pas avant ou un pas après, il aurait échappé à cette tuile. Mais si on prend une autre séquence du point de vue de la tuile, il y a un effet mécanique, et là nous sommes devant quelque chose qui est de l'ordre du nécessaire. Mais si on prenait une séquence encore plus avant, on pourrait dire il y a aussi une contingence qui est le fait que les propriétaires de cet immeuble ne s'occupaient pas bien de leur toit et qu'ils l'ont laissé, et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé.
Tout à fait.
Donc, en fait, nous sommes dans ce débat, dans cette question, il y a des séquences. Il y a des séquences qui sont de l'ordre d'une nécessité, dans un même événement. Des séquences qui sont de l'ordre de la contingence et ainsi de suite. Et c'est, encore une fois, c'est l'interprète qui va, à un moment donné, décider où commence, où finit la contingence et la nécessité. Et moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le nécessitarisme qui a envahi particulièrement le monde occidental, ultra-moderne, parce que ailleurs, ça ne se passe pas tout à fait ce nécessitarisme. Nietzsche disait la main de fer, les mains de fer de la nécessité. On l'a, par exemple, avec l'économie. L'économie a régné avec un discours de la nécessité à tel point que le politique n'avait plus de place. Le politique, c'est la contingence. C'est l'affaire de la contingence, le politique. Et subitement, justement, avec le Covid, il y a eu ce coup d'arrêt à ce nécessitarisme de l'économie. Et tout à coup, s'est ouvert une possibilité pour le politique. Et un politique qui ne fonctionnait plus avec les lois, justement, qui lui étaient imposées par l'économie.
Oui. Donc, oui. Allez-y. Non, mais d'un autre côté, il me semble que du fait de notre difficulté à intégrer la contingence dans notre manière d'appréhender les choses, que nous soyons philosophes ou non, nous marquons une sorte d'hostilité, d'allergie à la finitude. Et c'est cela précisément que je remarque. Alors pour m'expliquer, je voudrais vous citer Victor Hugo. Victor Hugo, qui était entre autres un grand poète romantique, mais aussi à certains moments un progressiste naïf, Il a dit ceci, que bientôt, au XXe siècle, la tribune politique se transformerait en tribune scientifique. Fin des surprises, fin des calamités et des catastrophes. On aura doublé le cap des tempêtes. Il n'y aura, pour ainsi dire, plus d'événements. Ce sera le règne paisible de l'incontestable. Évidemment, le XXe siècle a démenti la prédiction de Victor Hugo. Mais on se retrouve un peu dans la même situation aujourd'hui. Non pas avec cette idée d'une maîtrise humaine généralisée, mais avec l'idée que si l'homme n'est plus le dieu qui crée la nature, l'homme devient l'agent du mal. Et en tant que tel, il peut être en effet accusé, il peut être mis en cause. Mais, si vous voulez, ça procède justement dans notre façon de voir et même de concevoir la politique d'un déni de la finitude. Nous n'arrivons pas à comprendre que les politiques avancent dans le brouillard. C'est une expression de Milan Kundera, très juste, qui dit la contingence. Ils avancent dans le brouillard, mais c'est qui dit aussi la finitude. On cherche, on tâtonne. Non, ils ne tâtonnent pas. Ils peuvent tout. S'ils se trompent, c'est leur faute. Donc, ils restent maîtres de l'univers. Ce n'est plus pour faire le bien, pour s'identifier à Dieu sur Terre, pour remplacer Dieu, mais c'est pour faire le plus de mal possible. Mais je vois, moi, dans l'incapacité à penser la contingence, un déni constant de la finitude, un déni qui se perpétue alors même qu'on critique la volonté de maîtrise dont l'homme moderne se serait rendu coupable. J'espère ne pas avoir été trop obscur.
Non, non,
Patrick Dupouet.
Oui, je pense que vous avez été tout à fait clair. Alors, je repartirai du propos de Fethi Ben Slama pour essayer de vous répondre. Je pense, alors, qu'il s'agisse des choses naturelles ou des choses humaines, je pense que ce n'est peut-être pas en séquences qu'il faudrait découper, dire il y a des séquences de contingence et des séquences de nécessité. Moi, je pense qu'on peut assumer l'affirmation, la thèse, qu'il y a partout et toujours de la nécessité et partout et toujours de la contingence. Les deux affirmations sont parfaitement compatibles. Et pour ce qui concerne, par exemple, les événements récents et la pandémie, c'est certain qu'il y a aujourd'hui une allergie à la finitude, un refus, par exemple, de reconnaître notre dépendance vis-à-vis de la nature. Et ce n'est pas la seule pandémie qui nous permettrait d'illustrer ce refus, qui est, à mon avis, une illusion. Et c'est vrai que les politiques naviguent dans le brouillard. D'ailleurs, on n'a pas entendu Kundera pour le savoir, parce que Aristote le disait déjà, et Machiavel l'a répété de façon très, très insistante, avec la notion de fortune, par exemple. Oui, la politique, c'est le règne de la contingence. On retrouve cette idée, je pourrais vous donner les citations si vous le souhaitez, chez Merleau-Ponty, par exemple. Ensuite, pour la question de la responsabilité, il est probable que notre obsession de trouver des responsables, des coupables, doive quelque chose à... vous savez, les analyses que faisait Nietzsche dans nombre de ses écrits, dans lesquels il attribue notre obsession de toujours trouver des responsables à ce désir de punir, à ce souci de punir, qui est un héritage pour lui d'une tradition essentiellement chrétienne. Lui dit, nous autres immoralistes, sommes entrés dans le courant contraire et nous cherchons de toutes nos forces à faire disparaître de nouveau du monde l'idée de culpabilité et de punition, ainsi qu'à en nettoyer la psychologie, l'histoire, la nature, les institutions et les sanctions sociales. Il n'y a plus à nos yeux d'opposition plus radicale que celle des théologiens qui continuent par l'idée du monde moral, entre guillemets, à infester l'innocence du devenir avec le péché et la peine. Sans doute, notre obsession de la culpabilité doit-elle quelque chose à cela. Alors ensuite, ça c'est une interprétation qu'on pourrait qualifier d'historique, de psychologique, ou peut-être même de philosophique ou métaphysique. Ensuite, eh bien, il appartient à chacun d'entrer avec mesure, c'est-à-dire sans démesure, dans l'estimation, dans l'évaluation de ce que sont, car il y en a effectivement les responsabilités. Alors on pourrait là commencer à entrer dans des analyses politiques de l'histoire récente ou moins récente et se demander quelles sont nos responsabilités. Ce ne serait certainement pas seulement celle des politiques, mais peut-être celle de nous tous comme citoyens qui n'ont pas été assez vigilants, qui n'avons pas assez averti, qui n'avons pas assez fait suffisamment d'efforts pour comprendre ce qui pouvait, ce qui allait nous arriver. Je crois que les responsables, oui, il faut essayer de les chercher, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire une obsession de trouver partout, à tous les événements et à tout ce qui nous tombe dessus, des coupables.
Effectivement,
le mot obsession est intéressant, là, que vous amenez, parce que c'est justement ça les conséquences de l'effacement, de la tentative d'effacement de la finitude, de la mort. Autrement dit, pour dire les choses d'une manière plus claire, ceux qui luttent justement contre la mort ne peuvent être que dans cette obsession, dans la maîtrise, dans ce qui ne laisse pas de place justement à cela. Et l'obsessionnalisation du monde est un phénomène tout à fait... Vous savez que les observateurs des pathologies et des maladies de l'âme vous diront qu'aujourd'hui, en tout cas en Occident, ce sont les maladies des névroses obsessionnelles qui ont augmenté d'une manière extraordinaire. Et qui correspondent à quoi ? Qui correspondent à ce que vous avez dit, c'est-à-dire la maîtrise... Le vouloir maîtriser et vouloir être responsable, et ça veut dire forcément être coupable et de ne pas échapper finalement, cette volonté de maîtriser finit toujours par culpabilité ou bouc émissaire. Parce que aussi c'est cela, ou bien soi-même coupable, ou bien un autre est coupable et on va chercher à l'identifier. Et quand vous regardez aujourd'hui ce qui s'est passé sur les causes de l'émergence de l'épidémie, c'était ça. Un des discours, c'était qui est responsable. Trump dit c'est les Chinois. On dit que c'est voilà ce que nous avons fait, la mondialisation. On dit voilà. Toutes sortes de supputations qui amènent à quoi ? À dire, voilà, il y a quelqu'un qui est coupable. Et c'est, juste pour revenir au roman de Philip Roth et à ce personnage, Bucky
Cantor,
vous savez, une des phrases de la fin, son ami avec lequel il discute, et remarquant que Bucky Cantor, qui est, ne pouvait pas ne pas penser qu'il est responsable de ce qui est arrivé. Et il finit dans la mélancolie. Qui est toute la fin du livre est terrible d'ailleurs sur la mélancolie de Bucky Cantor, et son ami lui dit, il dit ceci, il ne sait pas où prend fin sa responsabilité. Il voulait être responsable, et même à un moment donné, au fond, il se confondait sa responsabilité avec la responsabilité de Dieu. Bucky Cantor, c'est ça. Oui, c'est lui et Dieu qui sont responsables.
Oui. Que l'épidémie de polio parmi les enfants du quartier de Wekawik et les enfants du camp d'Indianil fut une tragédie, il ne pouvait pas l'accepter. Il faut qu'il convertisse la tragédie en culpabilité, pardon. Il lui faut trouver une nécessité à ce qui se passe. Il y a une épidémie, il a besoin de lui trouver une raison. Il faut qu'il se demande pourquoi. C'est un martyr, un maniaque du pourquoi.
Voilà, on finit avec les martyrs. Voilà. C'est ça qui est terrible.
Mais pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure sur la politique et la recherche, disons, raisonnable de la responsabilité, ce qui m'inquiète aujourd'hui avec cet effacement de la finitude, c'est aussi que s'installe une mécompréhension de la politique comme telle. Patrick Dupouet, vous avez fait référence à Aristote avant Kundera, puisqu'en effet, pour Aristote, la vertu politique, c'est la phronesis, à savoir la sagesse pratique qu'on traduit par prudence, le coup d'œil en situation d'incertitude, braqué sur l'action qui convient, comme dit Ricoeur. Mais justement, on ne conçoit plus qu'il puisse y avoir une sagesse pratique, on pense que l'ordre pratique lui-même est justiciable d'un savoir. Donc ce contre quoi Aristote nous a mis en garde, nous ne savons plus le penser aujourd'hui, et c'est pour cette raison que nous adressons parfois aux politiques des reproches démesurés. Il y a bien sûr des mises en cause à faire, des atermoiements à interroger, etc. Mais là, il faut absolument que la tragédie soit convertie en culpabilité, que la contingence disparaisse, et donc il ne peut plus y avoir que des crimes.
Oui, alors là, c'est peut-être le philosophe qui va ramener au concret après avoir inauguré l'émission par des définitions très abstraites. Mais je pense que ce n'est pas faire preuve d'allergie à la finitude ou de se rendre complice de l'effacement de la finitude que de faire remarquer quand même que la situation qui a été créée par cette pandémie est aussi consécutive au fait qu'ont été ignorés pendant quand même des années et principalement pendant les derniers mois récents tous les avertissements lancés par exemple par le personnel hospitalier sur la situation de l'hôpital. Parce qu'on a beau dire l'hôpital a tenu, il n'a tenu qu'au prix, d'abord on sait de quels efforts et de quels sacrifices, même et même au prix de l'exportation de certains malades vers des hôpitaux à l'étranger. Il y a quand même eu donc des avertissements, il y a eu des manifestations qui ont été copieusement arrosées de gaz lacrymogène. Il y a eu aussi un certain mépris des sciences humaines, par exemple, qui avaient quand même averti sur la situation. Il y avait des écrits, il y avait des publications qui ont averti sur la situation dans les EHPAD. Il y a eu tous les sociologues ne sont pas des militants d'extrême gauche. On aurait pu en écouter certains sur l'hôpital et sur d'autres choses. Il y a des responsabilités politiques. Il y a eu quand même de sacrés mensonges opportunistes à propos des masques. Là, maintenant, ça éclate au grand jour. Alors, sans doute, il ne faut pas chercher, je dirais, systématiquement partout et toujours des coupables à tous les niveaux. Il y aura des responsabilités à établir. Après, que ces responsabilités doivent être jugées au niveau moral, au niveau politique, au niveau judiciaire, ça c'est une autre question, à laquelle d'ailleurs le philosophe n'est pas spécialement habilité pour répondre.
Mais enfin, écoutez, moi je pense toujours à cette phrase de Raymond Aron, quand je critique un politique, je me mets d'abord à sa place. Bon, alors, pénurie de masques. On dit, il y a pénurie de masques, voilà, on n'en a pas assez, donc on les réserve au personnel soignant. Qu'est-ce qui va se passer? Crise de panique, la délinquance était en train de se reconvertir, magasins dans les hôpitaux, dévalisés, etc. Un problème extraordinairement difficile à résoudre. Et voyez ce qui se passe aujourd'hui. Comme les politiques ont toujours tort, on nous force à mettre un masque, pas tout à fait dans le studio, mais dans la maison de la radio, dans toutes les villes, etc. Grande protestation. Ils exagèrent, ils en font trop. Mais ils en font trop à cause de tous les reproches qu'on leur avait adressés, à cause justement de cette ambiance qui est une recherche de la culpabilité, parce qu'ils ne peuvent pas être dans l'incertitude. Soit c'est des incompétents, soit c'est des menteurs. Donc j'en reviens à ce que je disais, on ne sait plus penser la sagesse pratique, la phronesis, avec la modestie qu'il faut, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le politique devient un métier très difficile, sinon impossible.
Juste pour répondre, ils ne nous ont pas dit qu'il y avait pénurie de masques. Ils nous ont dit que les masques n'étaient pas utiles, ce qui est différent.
Bien entendu, même s'ils nous avaient dit qu'il y avait pénurie, on aurait assisté à ce que je décris.
Eh bien oui,
on a assisté à une véritable panique.
Mais cette pénurie, elle avait aussi des causes. Elle avait aussi une origine dans des décisions politiques. De même, vous avez parlé, Fethi Ben Sabah, à très juste titre, de l'effacement du politique face à l'économie. Mais c'est une rengaine qu'on entend un peu trop aujourd'hui, l'idée que l'économie aurait pris toute la place qu'a prise l'économie dans nos sociétés, elle résulte aussi pour une grande part de décisions politiques qui ont été des décisions parfaitement conscientes. Ça a été le cas de la crise, en particulier des subprimes. La crise des subprimes aux États-Unis n'a été rendue possible que par des décisions parfaitement politiques.
Oui, mais parce que le politique a défailli à sa fonction. C'est pour ça que c'est inséré ce discours de la nécessité qui est le discours.
Oui, bien sûr.
Moi, je voudrais poser la question si il n'y a pas une situation particulière, la situation française. C'est-à-dire, moi, je regarde un peu ce qui se passe dans d'autres pays, des débats aussi intégriste, j'allais dire. Il y en a pas comme ça se passe en France, il y en a pas beaucoup. Il y a quelque chose justement en France qui, je crois, à cause de son histoire liée à la toujours, elle est prise dans trancher la tête du monarque, du souverain. Elle est toujours dans ce fantasme-là. Dès que un homme est élu à cette place aujourd'hui qui est celle du président de la République, où on ne pense qu'à lui trancher la tête. C'est très particulier en France. Ça se passe pas comme ça dans tous les pays. Et donc cette sorte que j'appelle l'intégrisme, moi, parce que c'est vraiment une forme d'intégrisme qui consiste à vouloir incriminer à tout bout de champ le responsable en lui prêtant évidemment une toute puissance, avec une confusion que je voudrais soulever là sur très importante, sur la confusion entre l'imprévu et l'imprévisible. La survenue d'un virus comme celui de la Covid, eh bien, il a été, d'une certaine manière, prévu.
Oui.
La CIA, semble-t-il, a indiqué qu'il allait surgir probablement un virus et la situer dans cette région vraiment de asiatique. Le livre blanc apparemment de l'armée qui a été sur la stratégie des armées en France l'avait aussi prévu. Mais on peut prévoir, mais néanmoins reste l'imprévu. Vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez, mais la place de l'imprévu n'est pas éliminable. Vous pouvez penser et vraiment prendre toutes les précautions, etc. Eh ben non. Et l'imprévu reste, peut surgir de nouveau, parce que tout simplement, les actions humaines, la pensée humaine, tout ce que les êtres humains peuvent faire, est toujours frappé de l'incomplétude. Il ne peut pas y avoir une totalisation de tout ce qui est possible.
Ça, c'est certain, oui.
Voilà.
C'est certain. Là, je pense qu'on pourrait répondre à double niveau, un niveau philosophique, et je vais confier cette réponse à Merleau-Ponty, et ensuite un niveau politique, mais là je serai beaucoup plus court. Je cite la préface d'Humanisme et Terreur. Ce sera un peu long, mais enfin c'est Merleau-Ponty. L'homme public, puisqu'il se mêle de gouverner les autres, ne peut se plaindre d'être jugé sur ses actes, dont les autres portent la peine, ni sur l'image souvent inexacte qu'il donne de lui. Comme Diderot le disait du comédien en scène, nous avançons que tout homme qui accepte de jouer un rôle porte autour de soi un grand fantôme dans lequel il est désormais caché et qu'il est responsable de son personnage même s'il n'y reconnaît pas ce qu'il voulait être. Le politique n'est jamais aux yeux d'autrui ce qu'il est à ses propres yeux, non seulement parce que les autres le jugent témérairement, mais encore parce qu'ils ne sont pas lui et que ce qui est en lui erreur ou négligence peut être pour eux mal absolu, servitude ou mort. Acceptant avec un rôle politique une chance de gloire, il accepte aussi un risque d'infamie. L'une et l'autre imméritée. L'action politique est de soi impure parce qu'elle est action de l'un sur l'autre et parce qu'elle est action à plusieurs. Aucun politique ne peut se flatter d'être innocent. Gouverner, comme on dit, c'est prévoir et le politique ne peut s'excuser sur l'imprévu. Or, il y a de l'imprévisible, c'est certain. Voilà la tragédie. Ça, je dirais, c'est la mise en place philosophique, me semble-t-il, parfaitement pertinente de la question. Au plan politique, les politiques n'ont guère à se plaindre qu'on cherche à leur couper la tête, entre guillemets, peut-être pas toujours d'ailleurs, entre guillemets, à la suite des événements que les citoyens subissent. Parce qu'enfin, c'est peut-être un petit peu dû aux formes qu'ont prises les institutions politiques, à savoir une présidentialisation, par exemple, dans la Ve République,
à outrance. C'est pour ça que je parle de l'histoire, de la situation française, où finalement le président de la République a des prérogatives d'un souverain,
bien sûr,
et que donc de nouveau le fantasme de couper la tête est là présent,
oui,
sans cesse.
D'accord, mais enfin le grand théoricien de cette méfiance en France, c'est Alain.
Ah,
curieusement,
oui.
Alain pour qui effectivement la démocratie, ce n'est pas le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, c'est la surveillance du gouvernement par les citoyens. C'est comme ça qu'il conçoit la démocratie. Le pouvoir a toujours des tendances, il ne dirait pas totalitaire, mais despotique. Donc il faut exercer une surveillance constante. Et c'est ce que Raymond Aron, d'ailleurs, lui reprocha très durement. C'est pas comme ça qu'on doit concevoir la communauté politique. Mais vous avez dit, Fethi Ben Slama, qu'en effet, l'imprévu ne pouvait pas être totalement conjuré du fait de la pluralité humaine, enfin. Et ça, c'est effectivement la pensée d'Anna Arendt que je voudrais introduire maintenant. Ce n'est pas l'homme qui habite la Terre, ce sont les hommes dans leur pluralité infinie. Et Anna Arendt a toujours été attachée à réintroduire la contingence en politique. Oui. Sartre, il dit, c'est le philosophe de la contingence. La nausée, je suis de trop, tout le monde est de trop, et ceux qui croient avoir un droit à l'exister, c'est des bourgeois, c'est des salauds. D'accord, mais il n'y a aucune contingence dans la politique sartrienne, alors que Anna Arendt écrit notamment, les faits n'ont aucune raison décisifs d'être ce qu'ils sont, ils auraient toujours pu être autres, et cette fâcheuse contingence est littéralement illimitée. C'est à cause du caractère hasardeux des faits que la philosophie prémoderne refusa de prendre au sérieux le domaine des affaires humaines. Et aucune philosophie moderne n'a été, de l'histoire, n'a été capable de se réconcilier avec la ténacité intraitable et irraisonnable de la pure factualité. Les philosophes modernes ont évoqué tous les genres de nécessité. Voilà. Et elle se plaint justement de la disparition de la pensée de la philosophie politique, de sa dissolution dans la philosophie de l'histoire. Mais c'est parce qu'elle parle, elle part juste de la pluralité humaine. Et on a un peu tendance à oublier cela quand on parle de l'homme, justement, d'où l'oubli de la contingence et peut-être aussi l'effacement de la finitude. Patrick Dupouet.
Alors, Alain ne peut être mentionné sans que je me sente un peu obligé, en tant que lecteur assidu depuis maintenant 40 ans de cet auteur, de mettre peut-être quelques précisions sur la table. La démocratie, c'est pour Alain aussi le gouvernement du peuple par le peuple. Il y insiste beaucoup contre toute idée de technocratie, de gouvernement par les compétents. Il y insiste beaucoup dans son refus, par exemple, du suffrage proportionnel, qui aurait pour conséquence d'éloigner l'élu de ses électeurs. Quant à la surveillance, en effet, c'est ce que Alain appelle le citoyen contre les pouvoirs, contre signifiant ici, en effet, cette vigilance. Alain s'oppose à l'idée que la pensée politique aurait pour mission d'organiser la société. Toute société est mauvaise en tant qu'elle est organisée. La société est une réalité naturelle. Là, je crois qu'il a parfaitement raison, qui s'est faite toute seule, qui a une origine historique, donc contingente. Il appartient aux politiques de l'aménager, de l'améliorer, sous la surveillance des citoyens. Alors, pour Alain, cette surveillance, c'est la surveillance que nous sommes habilités et que nous sommes, je dirais même, tenus d'exercer vis-à-vis, par exemple, de politiques. Là, je reviens au concret, qui ont institué des choses qui ont quand même largement désarmé l'État, ne serait-ce qu'au point de vue financier. Enfin, quand on pense à ce que coûte le crédit impôt recherche, le crédit compétitivité emploi aujourd'hui et à ce qu'il rapporte en termes d'emploi, on a de quoi nourrir la défiance du citoyen et l'examen justement et la vigilance et la surveillance du citoyen. Quant à Sartre, il a quand même écrit tout un gros livre, La critique de la raison dialectique, pour penser la contingence dans la politique. Sartre est le philosophe de la liberté au niveau de l'individu, c'est certain. C'est aussi un penseur de la contingence politique qu'il a essayé, comme il a pu dans le cadre de sa philosophie existentialiste, de concilier avec la nécessité que comportait, disons, le cœur du matérialisme historique, c'est-à-dire du marxisme. Ça, c'est certain.
Mais s'il dit que le marxisme est la philosophie indispensable de notre temps, c'est quand même le marxisme, c'est la raison dans l'histoire. Mais la lutte de classe comme raison dans l'histoire.
Ça ne veut pas dire la philosophie vraie, pour lui.
Comment ?
Ça ne veut pas dire la philosophie vraie.
Ah oui, peut-être.
Ça veut dire aujourd'hui, c'est indépassable.
Fethi Ben Slama.
Oui, moi, je pense, ça ne m'étonne pas. Enfin, ce que vous citez de Hannah Arendt, parce que c'est la question du totalitarisme qui est en jeu. Et quand on parle de... Enfin, la méfiance vient... C'est vraiment quelque chose d'assez assez insupportable de penser que c'est la méfiance qui doit présider au rapport, ou à quiconque d'ailleurs. Parce que nous sommes alors là dans le processus paranoïaque par excellence.
Le politique n'est pas quiconque.
Non, c'est pas quiconque, mais il y a des outils de contrôle et de rendre compte de ce qu'on fait, et qui peuvent être tout à fait suffisants sans dire que ça doit être de l'ordre de la démocratie et de l'ordre de la méfiance. Dire que la démocratie est de l'ordre de la méfiance et installer la paranoïa, en tout cas.
Eh oui,
ça c'est clair.
Alors, c'est très intéressant que vous utilisiez le mot paranoïa, parce que on peut repérer deux formes de pathologie dans cet exercice un peu délirant de la raison, dans cette incapacité de se réconcilier, comme dit Hannah Arendt, avec la ténacité intraitable et raisonnable de la pure factualité. Le complotisme.
Ah oui,
évidemment. Le complotisme. Ouais. Il y a toujours une raison, il y a toujours une cause, on l'a fait, et voilà. Elle est cachée, et je vais vous la trouver. Et aussi, pathologie, si on peut dire, pire encore, le négationnisme. Le négationnisme, c'était ça. C'est pour ça qu'il est venu de l'extrême gauche, beaucoup plus de l'extrême droite. Et ça a commencé avec l'affaire Dreyfus. Dreyfus devait être coupable, puisque on ne pouvait pas imaginer une justice bourgeoise s'acharner sur un bourgeois. C'était la thèse de Karl Liebknecht à l'époque. Et le négationnisme tel qu'on l'a connu, c'était ça. On ne voit pas pourquoi les nazis aurait exterminé une force de travail gratuite. C'est donc l'ultra-gauche qui a véhiculé ces thèses. Vous voyez, c'est-à-dire que Leibniz, que vous citiez tout à l'heure, oppose les vérités de raison et les vérités de fait, hein. L'une se déduit, l'autre se constate, je crois. Mais il y a une tendance à aligner les vérités de fait pour les sur les vérités de raison et dire qu'une factualité absurde, non logique, incohérente, n'a pas sa place. Et on l'efface. Et donc, je vois là à l'œuvre la paranoïa, dont une des formes de paranoïa dont vous parliez, Fethi Ben Slama.
Le complotisme, c'est tout à fait cela. Et il est le symptôme d'une forme d'organisation du monde. Et c'est très bizarre. D'ailleurs, on ne le compare jamais suffisamment à la pensée magique et à la sorcellerie. Ça ressemble beaucoup, beaucoup. Au fond, nous avons, avec le complotisme, l'équivalent dans le monde ultra-moderne de ce qui est dans l'ancien monde, qui existe encore, d'ailleurs, du côté de la sorcellerie, et de trouver toujours un persécuteur ou un système qui a persécuté. Et je crois que, encore une fois, je voudrais insister sur un point très important. Tout cela, il faut restituer la place de l'interprète. Et si la démocratie n'est pas justement la pluralité des interprètes qui débattent, alors il n'y a plus. La place de l'interprète, c'est la place de celui qui, justement, chaque fois, va pouvoir dire modestement, voilà le point qui me semble où ça s'arrête, où ça commence la contingence, où ça commence la nécessité, où elle s'arrête, et que cette invention extraordinaire de la démocratie est qu'il y ait ce débat entre les interprètes. Mais à partir du moment où il y a un interprète qui prétend dominer par son interprétation, automatiquement, il n'y a plus cet espace public des interprètes. Et toutes les théories qui viennent, en effet, vouloir faire prévaloir une interprétation de l'histoire, du monde, etc., sans mettre fin à cette fonction de l'interprète qui doit être partagée.
Oui, ça, bien sûr. Il est évident que la prétention à s'ériger en interprète exclusif, unique, totalitaire, si vous voulez, de la réalité, est une prétention abusive, inacceptable. Je ne suis pas d'ailleurs sûr que ce soit toujours celle du complotisme, qui peut très bien s'ouvrir à la discussion, et qui peut très bien soumettre ses thèses à, après tout, l'idée que ce virus, idée à laquelle je n'adhère pas, mais aurait été fabriqué par un laboratoire, est une thèse qui mérite d'être discutée. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire.
Ah non, c'est plus que ça. Dans le complotisme, on a voulu attaquer tel ou tel...
C'est plus qu'un... Elle a été discutée, cette thèse. Elle a été discutée et elle a été invalidée.
Si on dit le virus a échappé d'une expérience, on est dans la contingence, là.
Tout à fait. Là, on est dans la contingence, mais bon... Bon, sur le complotisme, son origine, ses causes, il y aurait beaucoup à dire, ainsi que sur le négationnisme. Bon, je laisse à Alain Finkielkraut la responsabilité de l'interprétation, enfin, de l'affirmation. C'est venu d'abord de l'extrême gauche, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est venu de gauche, pas extrême.
La vieille taupe, qui a recueilli les thèses de Forisson, Racinier.
Racinier, c'est pas l'extrême gauche, hein.
Oui, mais enfin, c'est pas l'extrême droite non plus.
Non, je suis d'accord.
Une partie de l'extrême droite, si vous voulez, a recueilli ces thèses comme une espèce de bénédiction, mais c'est l'ultra-gauche qui les a diffusées, et c'est pour ça d'ailleurs que dans les premières années, un certain nombre de journaux ont été, pris au dépourvu, ont été désemparés devant cette thèse, puisqu'il ne s'agissait en aucune façon de faire l'apologie du nazisme, mais de dire, nous vivons un problème qui est celui de la lutte des classes, on veut nous détourner de la lutte des classes en créant un ennemi fictif, un ennemi horrible, qui nous amènerait aujourd'hui à nous réconcilier avec les bourgeois, avec les capitalistes, avec les États-Unis. Et on va vous prouver que cet ennemi n'existe pas et que la lutte doit reprendre de plus belle.
Bon, ça, sur l'origine du négationnisme, c'est à l'historien de se prononcer. Bon, je n'ai pas, sans doute, la capacité, la compétence pour trancher sur cette question. Je pense que, en effet, une défiance systématique, une paranoïa, c'est une très mauvaise chose. Il y a dans les relations humaines une nécessité non seulement de confiance, dans les rapports que j'ai avec mon garagiste par exemple, mais même, je dirais, je n'ai pas peur de le dire, moi qui suis un homme de peu de foi et de pas de foi du tout même, de foi. Il faut de la foi dans les relations amoureuses, c'est évident, c'est évident. Il faut de la confiance dans les relations professionnelles, dans les relations amicales, mais je pense que ce n'est pas une erreur que de dire que dans le rapport aux politiques, la défiance doit primer. La défiance, oui, doit primer. Ah oui, alors, qu'il y ait aussi une part de confiance, après tout, elle s'exprime dans le fait que je mets un bulletin dans l'urne, mais le bulletin que je mets dans l'urne est toujours un bulletin sous réserve. Et je sais très bien que, comme le dit Alain, si la société était organisée comme le prévoit le système ou le système de pensée de celui pour qui je vote, elle serait mauvaise de toute façon si elle n'était constamment, en effet, exposée à cette surveillance.
Alors, moi, ça ne me gêne pas. On a une opposition vraiment franche parce que moi je pense que la base c'est la confiance. C'est vraiment, si, comme vous dites, c'est la défiance d'abord, c'est vraiment, nous sommes dans un monde terrible. Quand vous sortez, vous prenez le métro, vous prenez le taxi, vous supposez, vous faites confiance à ce chauffeur qu'il n'est pas fou, vous lui supposez de la raison et vous lui faites confiance.
Mais le chauffeur n'est pas un politique.
Quand vous tendez, mais attendez, mais politique ou pas politique, la politique ne sort pas des affaires humaines. Elle ne sort pas de la dimension de la fiance et de la foi. Il faut, d'abord, la foi et la règle et ensuite la critique, la défiance, etc. Mais si on inverse, eh bien, voilà, on est dans le monde de la paranoïa.
Pas forcément.
Alors, écoutez, nous terminerons sur ce différend qui m'intéresse beaucoup, mais voilà, l'émission est finie et je vous remercie tous les deux pour cette conversation très éclairante. C'était mieux que la réponse à une question d'Agreg. Alors, vous trouverez les références bibliographiques sur le site franceculture.fr, à la page de l'émission Réplique. L'émission est écoutable à vie sur franceculture.fr et l'application Radio France. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La vie et la mort à la lumière du coronavirus ». Mes invités seront Pierre Manant et Olivier Rey. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Aurélie Marsay et de François Connac. À la technique aujourd'hui, Manon Houssin. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.